matin.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, c'est un sabotage. C'est en tout cas la conviction d'Ursula von der Leyen pour la présidente de la Commission européenne. Ces fuites de méthane sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique, qui provoquent depuis hier d'immenses bouillonnements sur 1 km², ne sont pas accidentelles. Thèse renforcée par les explosions sous-marines enregistrées à l'endroit des fuites. Kiev dénonce une attaque terroriste de Moscou. Bonjour Nicolas Tonev.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie. Alors pour l'heure, rien ne prouve que Moscou serait responsable de ces explosions. Le Kremlin se dit d'ailleurs très préoccupé. Cela dit, Nicolas, les Russes sont les seuls au monde capables de mener ce genre d'opération de sabotage à n'importe quelle profondeur grâce à une flotte de sous-marins spéciaux uniques.
Oui, une dizaine d'engins qui appartiennent à la GUGI, la direction des plongées et études en eau profonde du ministère de la Défense. Cette 29e division autonome, basée près de Mourmansk dans le Grand Nord, est chargée de missions ultra secrètes, exploration, reconnaissance, sabotage à grande profondeur. Alors, seules quelques informations filtrent sur ces sous-marins, mais elles donnent une idée de leur capacité pour les AS-13, 15 et 33 cachalots, propulsion nucléaire, coque en titane, équipe de plongeurs avec sas de recompression, des bras manipulateurs également pour découper des objets. Le fleuron de cette flotte est le Locharik, un engin de plus de 60 mètres nucléaire, déplacé par un sous-marin porteur géant sur son lieu de travail. Le Locharik pourrait plonger jusqu'à 6000 mètres et se livrer à des opérations de sabotage à cette profondeur. Lors d'un accident entraînant la mort de 14 marins, Vladimir Poutine a reconnu que cet engin était inhabituel. Ces sous-marins sont secondés par le Yantar, un navire qui met en œuvre des robots et des scaphandriers. En théorie donc, aucun tuyau et aucun câble sous-marin dans le monde n'est hors de portée, si besoin, de cette redoutable 29e division.
Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie. Ce chiffre éloquent ce matin sur Europe 1, 66 000 Russes sont entrés dans l'Union européenne la semaine dernière, selon l'agence Frontex. 30% de plus que la semaine précédente. Conséquence directe de la mobilisation annoncée par Vladimir Poutine. Moscou, de plus en plus isolé, même ses alliés indiens et chinois se raidissent après les référendums d'annexion menés en Ukraine. New Delhi a fait part de la profonde inquiétude quant à la tournure que prend la guerre. L'ambassadeur chinois aux Nations Unies a appelé hier, quant à lui, au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Et pendant ce temps, le Kremlin, lui, se félicite de sa victoire à l'issue des pseudo-référendums organisés en Ukraine. 4 régions, 4 oui à Zaporizhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Plus de 90% d'avis favorables à l'annexion russe. Résultat d'un simulacre d'élection qui n'a aucune valeur pour les Occidentaux. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
Nous ne reconnaîtrons pas et nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion de territoire ukrainien par la Russie. Et j'ai été tout aussi clair sur le fait que l'Ukraine a absolument le droit de se défendre sur tout son territoire, y compris pour reprendre les territoires qui ont été illégalement saisis d'une façon ou d'une autre par la Russie.
Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avis partagé par la ministre des Affaires étrangères en déplacement à Kiev. Catherine Colonna a assuré hier que la France et l'Union européenne prendront des sanctions. Il est 8h04 sur Europe 1. Va-t-on vivre le remake de 2019 des manifestations à répétition contre la réforme des retraites? Le sujet est à nouveau sur la table et il crispe les partenaires sociaux.
Oui, et pas que. Au sein même du camp présidentiel, l'avenir des retraites divise. Alors ce soir, Emmanuel Macron réunit plusieurs ministres, chefs de parti alliés, de groupes parlementaires de la majorité autour d'un dîner à l'Élysée. Au menu, la méthode, comment faire passer la réforme des retraites sans braquer l'opinion publique. Mobilisation à l'appel des syndicats programmée demain. L'ampleur pourrait être limitée, ce qui ferait les affaires d'Emmanuel Macron, Arthur Delaborde.
Oui, selon nos informations, le service central du renseignement territorial anticipe un faible nombre de manifestants demain contre cette réforme des retraites. Seulement 68 à 75 000 personnes devraient défiler dans tout le pays, dont 4 à 8 000 à Paris. Ces projections nous confortent dans l'idée qu'il faut aller vite, avance un ministre. Malgré les critiques qu'elle a suscitées dans la majorité, la piste de l'amendement au budget de la Sécu reste sérieusement envisagée par le président. Mais désormais, un nouveau scénario est à l'étude, faire passer la réforme dans un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale. Le texte serait alors présenté au début de l'année prochaine. Si cette formule pourrait donner l'impression qu'Emmanuel Macron recule en n'allant pas aussi vite qu'il l'espérait, elle présente aussi plusieurs avantages pour le chef de l'État. Utiliser le 49-3 sans difficulté, tout en laissant du temps à la concertation, ce qui calmerait la grogne au sein de la majorité, explique un conseiller. Le président devrait donc prendre sa décision finale en fin de semaine. D'ici là, un dîner est prévu ce soir sur le sujet à l'Élysée avec les ministres concernés et les poids lourds de la majorité. Emmanuel Macron devrait aussi en parler avec François Bayrou, qui n'a cessé de répéter son hostilité à tout passage en force. Il se déplacera vendredi matin chez le patron du Modem à Pau.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
De son côté, Elisabeth Borne est attendue à Compiègne dans l'Oise aujourd'hui à la rencontre des acteurs de la filière hydrogène. L'objectif, défendre l'industrie mais aussi l'indépendance énergétique de la France à l'heure où les factures explosent.
Une flambée des prix de l'électricité et du gaz qui tombe comme un couperet pour de nombreux chefs d'entreprise. Illustration, à Armentières dans le Nord, 2 des 8 boulangeries du centre-ville et du quartier Saint-Roch vont fermer cette semaine. Reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 dans la région, Maximilien Carlier.
La trancheuse à pain ne fonctionnera bientôt plus dans cette boulangerie artisanale située quartier Saint-Roch. Cela fait plus de 10 ans que Delphine et Pascal tiennent ce commerce.
Ah, c'est notre bébé qu'on a porté pendant 11 ans. C'est pas évident de fermer.
C'est dur, mais c'est un bon choix à l'heure actuelle.
En cause, l'augmentation du prix de l'énergie.
Vous voyez, je vous ai sorti les factures d'électricité. C'est pas des petites factures. Nous sommes sur le mois de juillet, donc on a quand même une facture de 943,87 €. Au mois de mai, 1 725 €. On a augmenté, d'après nous, de 40%.
À moins d'un kilomètre de là, dans le centre-ville, une autre boulangerie ferme dès ce soir. Dimitri, responsable de la Micaline.
L'inflation y est beaucoup. Tout ce qui est beurre, par exemple, beurre, mayonnaise, enfin tous ces produits-là, en fait, ne cessent d'augmenter. Et on ne peut pas éternellement augmenter nos produits. Après, c'est les clients qui vont en pâtir.
Ils pourront se tourner vers les autres boulangeries alentour. Ça sera plus compliqué, en revanche, pour les habitants de Saint-Roch, car c'était le dernier commerce du quartier. Armentières, Maximilien Carlier, Europe 1.
Allez, un peu de rêve pour terminer ce journal sur Europe 1. On va vous mettre des étoiles, que dis-je, des diamants dans les yeux.
Direction le Palais de Tokyo à Paris, où vous pouvez découvrir en ce moment l'un des plus gros diamants taillés au monde. C'est la première fois que ce musée présente ce type d'exposition. Elle est consacrée au bijoutier Fred. 450 merveilles, dont ce fameux soleil d'or que Marie Jiquel a pu contempler.
On pénètre prudemment dans cette salle ronde. Il s'agirait de ne rien faire tomber. Murs plaqués or, moquettes au sol et vigile sous pression puisque derrière ces rideaux dorés se trouve...
Le Yukun Kun, le plus gros diamant du monde, il est là.
Mieux que le Yukun Kun du film Le Corneau, le soleil d'or, un diamant jaune brillant de mille feux de la taille d'un glaçon au charisme hypnotique.
Un trésor.
Valérie Samuel, vice-présidente de la maison Fred, est la petite fille du bijoutier Fred Samuel.
En 1977, on le trouve aux États-Unis, nous le vendons et quelques mois avant l'exposition, nous le retrouvons et en faisant son acquisition pour la deuxième fois. Alors, on l'a retrouvé dans une collection privée, le propriétaire n'était pas vendeur, mais quand il a su que c'était nous, et quand il a su que c'était le soleil d'or, parce que je ne suis pas sûre qu'il savait exactement ce qu'il avait entre les mains, il a accepté de nous le céder.
101 carats qui représente 20 grammes, mais 20 grammes qui pèsent lourd dans le porte-monnaie. Ne demandez pas son prix, on vous répondra que sa valeur est inestimable.
Diamonds are girls' best friends. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Et oui, Marilyn Monroe, pour bien conclure cette balade de luxe au Palais de Tokyo, signée Marie Jiquel. On note quand même que c'est gratuit, hein, cette expo. Un mot de basket.
Mais sur réservation.
Mais sur réservation. Voilà. Un mot de basketball pour terminer. Le mondial féminin se poursuit en Australie. Les Bleus ont évité de faire face aux Américaines, mais demain, elles seront quand même en quart de finale face à la Chine. C'est à 10h.
On doit 1000 fois plus estimer une dent qu'un diamant. Proverbe espagnol.
Très, très beau proverbe.
Très terre à terre.
Très utile. Bien plus utile, ben oui, les dents que les diamants.
Proverbe pragmatique. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.